Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler cinéma et aujourd'hui on va pouvoir jouer à un blind test avec la filmographie de David Fincher. Pourquoi David Fincher? Tu as la réponse, Guillaume.
Et oui, parce que je vais parler de son dernier film et même si, je le dis de suite, hein, je suis un peu réservé, même beaucoup, c'est quand même toujours un événement.
Et oui, et c'est un événement qu'on doit à la plateforme Netflix en revanche. Nous parlerons aussi de Little Girl Blue de Mona Achache et puis de How to Have Sex de Molly Manning Walker. Mais nous commençons cette émission avec le préquel d'Hunger Games et nous retournons 64 ans avant que Katniss ne s'oppose à Coriolanus Snow dans La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Je vous ai fait venir ici aujourd'hui pour la 10e cérémonie annuelle de la moisson. Cérémonie durant laquelle nous choisissons 2 enfants de chaque district pour une lutte à mort dans les arènes du Capitole lors des Hunger Games.
Oui, j'avais vu toute la série de la saga Hunger Games qui est apparue il y a déjà alors plus de 10 ans. J'ai vu comment Katniss Everdeen, alias Jennifer Lawrence, a renversé ce régime qui avait instauré les Hunger Games, qui donne son titre au film. Un combat à mort télévisé dans lequel eh bien, des adolescents sont contraints de s'entretuer afin de divertir les dirigeants d'un régime totalitaire. Comme il y a moins de choses à dire après la rébellion de Katniss, nous retournons donc 64 ans en arrière, après les derniers événements pour nous intéresser à Coriolanus Snow, le plus féroce ennemi de la jeune fille, le président dictateur de Panem, le personnage antagoniste de la trilogie incarné par Donald Sutherland. Les fans qui vont voir ce 5e volet, La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, le savent, on leur raconte l'histoire d'un homme de pouvoir qui est plus qu'un homme machiavélique, hein, qui peut être cruel, complètement obsédé par la perfection et le maintien de l'ordre au mépris évidemment, des droits humains. Pour ceux qui n'ont jamais vu Hunger Games, il faut penser à eux hein, quand même. Ils suivent le parcours d'un jeune étudiant, fils d'un général déchu et désargenté, qui aspire à la reconnaissance et qui nous semble potentiellement attiré par le bien, du moins suffisamment ambigu pour nous intéresser. La fin nous apprendra vraiment qui il est. Alors dans ce préquel, toujours confié à Francis Lawrence, nous n'en sommes qu'au 10e Hunger Games, et plutôt que de juger les étudiants au mérite scolaire, on les juge pour leur qualité de mentor, leur qualité à proposer du spectacle.
Elle n'a aucune chance. Tu l'as vu, elle est sous-alimentée. Elle est instable.
Le doyen dit qu'il ne s'agit pas juste de gagner.
Tout est toujours basé sur la victoire. Si ce ne sont pas les jeux, c'est vis-à-vis de la foule. Lucy Gray ne survivra pas une minute une fois dans l'arène. Ça veut dire qu'il faut gagner l'amour du public avant qu'elle y pénètre. Il faut que je la fasse rechanter.
Je ne chanterai pas une seule note pour toi si j'étais à sa place. Je ne ferais rien pour toi, sauf si j'avais confiance.
Elle vient des districts, Tigris. Elle sait qu'on la déteste et elle veut notre mort. Comment veux-tu que je lui donne confiance en moi?
Imagine que ton nom ait été tiré à la moisson et tu te retrouves à des kilomètres de chez toi. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi déjà. Ne la néglige pas parce qu'elle vient des districts, Corio. Vous avez plus de choses en commun que tu ne le penses.
Alors comment s'intéresser à l'enfance d'un dictateur? Comment s'intéresse finalement à la trajectoire d'Anakin Skywalker dans Star Wars, qui était plutôt sympathique hein, au début? On ne naît pas méchant, on le devient, c'est là que tout se joue. On voit un étudiant ambitieux qui se prend d'amour pour celle qui a été désignée dans le District 12 pour les Hunger Games et qui va tout faire pour qu'elle gagne, donc sorte vivante de ses jeux cruels. Alors encore une fois, les jeux Hunger Games sont un élément dopant du récit hein, dans cette compétition de la mise à mort. Il s'agit bien de savoir eh bien, comment chacun va mourir. Mais dans ce 5e volet, une fois passé cette étape, eh bien, c'est aussi comprendre comment un homme peut basculer singulièrement vers le mal.
Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games.
Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix.
Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants.
Difficile de dire que ce cinquième opus de la série est raté, hein, même s'il a moins d'éclat que les premiers opus. Toutefois, l'ambiguïté entre bien et mal est peut-être un peu hasardeuse, et on n'échappe pas à une mièvrerie quand il s'agit, pour la pourtant remarquable Rachel Zegler, vue dans West Side Story, de chanter ou de prendre sa guitare. Il y a des amourettes qui ne sont pas consommées, une soif de pouvoir qui apparaît, et qu'une mise en scène un peu trop voyante appuie, ainsi revenant du purgatoire, hein, quand il est envoyé dans les districts, le personnage de Snow est montré en contre-plan pour asseoir davantage son propos. Radical mais un peu étouffant. Le pouvoir, l'amitié, l'amour, l'ambition, la violence, l'espoir, tous ces thèmes apparaissent à l'écran en nous servant un concentré de critique de la société du spectacle qui était déjà à l'œuvre dans les précédents opus. Donc malheureusement pas grand chose de nouveau pour un film qui s'étale quand même sur 2h40. Le cinquième segment de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, est en salle depuis le 15 novembre. C'est le cas aussi de How to Have Sex. Ça, c'est le prix incertain. Certains regards au Festival de Cannes 2023.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Tara, Sky et M sont trois adolescentes qui partent juste avant de connaître leurs résultats aux examens de fin d'année faire la fête en Crète pendant 3 jours. Leur but, boire un maximum, rencontrer des garçons et se débaucher le plus possible. Car Tara est la seule à être vierge et elle se met un peu la pression pour perdre cet encombrant pucelage au cours de ses vacances, à moins que ce ne soit la société, finalement, qui l'y pousse. Les trois amies rencontrent une bande de potes avec qui elles sympathisent pour le meilleur et pour le pire. Avec ce film, au titre en forme de recherche Google, nous sommes plongés directement au cœur d'une station balnéaire présentée peu ou prou comme l'enfer sur Terre, hein, peuplée de jeunes gens constamment sous, habillés en fast fashion. Et si la première partie du film présente une sorte d'esthétique de la fête qui n'est pas sans rappeler Spring Breakers, passer une soirée de fête un peu trop arrosée, le ton du film change, de lent zoom avant, ajoutant une certaine inquiétude à la gueule de bois ambiante, des plans quasi effrayants de la ville, la montre devenue fantomatique, jonchée de déchets, s'apparentant à une jungle dangereuse, surtout pour les femmes. Car on le comprend au fur et à mesure, il s'est passé quelque chose ce soir-là. How to Have Sex reprend les codes du film de vacances pour mieux nous mettre face à l'envers du décor. Le film n'est pas une chronique générationnelle. Il parle des rapports de domination entre hommes et femmes, des rapports qui commencent souvent très jeunes, hein, puisque l'on estime qu'un gros pourcentage de femmes commencent leur vie sexuelle par un viol. Il est intéressant de constater que lorsque l'on parle de la perte de la virginité au cinéma, eh bien on en fait des comédies si le point de vue adopté est celui des hommes. En revanche, quand on se place du point de vue des femmes, le ton est bizarrement plus dramatique. Le film montre de façon très intelligente toute la complexité de la pression sociale en matière de sexualité et à quel point nous sommes un produit de cet environnement. Il est question de la fameuse zone grise du consentement, cette zone grise étant en fait déjà une zone rouge. Les agressions sexuelles du film ne sont jamais des agressions violentes, elles sont exécutées d'une façon que notre société misogyne tolère, excuse, et c'est en cela que le film est très intelligent, peut-être trop pour être compréhensible par tous, et malheureusement il y a fort à parier que la vision et le ressenti des spectatrices devant How to Have Sex ne soient pas le même que celui des spectateurs. La réalisatrice Molly Manning Walker nous vient d'Angleterre. Elle a tout juste 30 ans. Elle a d'abord été directrice de la photo, notamment sur le film Scrapper de Charlotte Regan, grand prix du jury au festival de Sundance, dont je vous parlerai bientôt dans Cinérama. Si elle a voulu réaliser How to Have Sex, c'est suite à un mariage où elle a retrouvé des amis de jeunesse, des jeunes filles avec qui elle avait passé des vacances à Ibiza, au cours desquelles elles avaient assisté à des scènes choquantes, comme une fellation publique sur scène. Un épisode qui avait grandement marqué leur vision de la sexualité, réalisant les injonctions que les femmes subissent très jeunes par rapport au sexe et réalisant que toutes les femmes avaient de mauvais souvenirs de vacances du même ordre, Molly Manning Walker décide d'en faire un film. Elle s'est entourée pour cela de très bons acteurs qui ont une réelle justesse, hein, une telle justesse même qu'on pourrait croire qu'ils sont non professionnels et qu'ils improvisent, mais pas du tout. L'actrice Mia McKenna-Bruce, qui joue Tara, est particulièrement charismatique, avec une gravité, une tristesse, une joie parfois feinte, parfois spontanée, très caractéristique finalement de l'euphorie adolescente. How to Have Sex, c'est aussi du très très bon travail de direction d'acteur. On imagine à quel point il est compliqué de diriger des scènes d'agression sexuelle, mais aussi dans un autre registre, des scènes de fête qui sont nombreuses dans le film. Un premier long métrage très réussi, qui a été récompensé par la Queer Palm et par le prix Un Certain Regard à Cannes cette année.
How to Have Sex est en salle depuis le 15 novembre. Après un désastre évité de justesse, un tueur à gages se bat contre ses employeurs et se lance dans une expédition punitive, quasi chirurgicale. C'est le film The Killer de David Fincher qui va nous donner l'occasion de jouer au blind test. Mais avant, nous parlons de ce film qui est diffusé sur la plateforme Netflix.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
La musique est pour moi une distraction utile. Un outil de concentration. Elle empêche ma voix intérieure de divaguer.
Si chaque sortie de film de David Fincher est un petit événement en soi, force est de constater que l'intérêt suscité par son dernier effort, The Killer, est aussi banal que son titre plus que passe-partout. Alors The Killer, ce n'est pas, bien sûr pas le chef-d'œuvre absolu de John Woo et film définitif du genre sur son sujet, mais il partage néanmoins la même base puisqu'il s'agit d'un récit mettant en scène la vie d'un tueur à gages qui va voir ses plans bouleversés suite à un événement imprévu ayant entaché l'exécution de son dernier contrat. Alors ici, en lieu et place d'un Chow Yun-fat à pétant la classe, un ange de la mort en costard étincelant et révolutionnant le cinéma hongkongais et son impact à l'international par la même occasion, voilà un Michael Fassbender à bob et chemise à fleurs qui, je cite, se déguise en touriste allemand car personne n'a envie de parler à un touriste allemand. Autre temps, autre mœurs, mais aussi autre vision d'un métier qui, et c'est le film d'aujourd'hui qui nous le prouve, semble quelque peu tourner en rond.
Mon approche est purement logistique. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. J'en ai rien à.
Pour votre gouverne, jamais je n'aurais mêlé votre compagne à tout cela.
Bannis l'empathie.
S'il vous plaît.
Ne fais confiance à personne. Ne mène que le combat pour lequel on te paye.
Car de divertissement, ce The Killer nous en rappelle plein d'autres sur le même sujet, mais il faut être honnête, ceux-là sont franchement plus pertinents. Alors rien que la première demi-heure singe l'exceptionnelle introduction du flingueur de Michael Winner, avec un Charles Bronson mutique qui prépare chirurgicalement un assassinat, le tout sans aucune forme de dialogue, ce qui était en soi une jolie prouesse car allant aux antipodes des habitudes du cinéma américain, horriblement bavard de peur de perdre son spectateur. Alors si Michael Winner marche dans les pas de l'Henri Verneuil du Casse avec Bebel ou le Jean-Pierre Melville du Cercle Rouge, Fincher lui prend la direction opposée du même Melville qui, sur le samouraï, isolé Alain Delon dans le rôle non-verbal de tueur à gages à cheval sur ses principes. Alors le problème du tueur de The Killer version 2023, c'est qu'il ne fait tout simplement pas ce qu'il dit. Alors lors de sa longue préparation pour l'assassinat en ouverture du film, il parle, jusqu'à rater sa cible alors qu'il était en train d'essayer de nous convaincre qu'il était d'une grande précision et d'une rigueur rare. Alors ce gag involontaire digne de Mel Brooks dans Le Grand Frisson, film qui parodiait la mécanique du suspense et des machinations des films d'Hitchcock, n'est pas l'unique problème d'un long métrage pas original à la base et qui arrive à l'être encore moins par la suite. Le second problème vient d'une écriture empêtrée dans des lieux communs du genre tellement éculés qu'ils en deviennent instantanément répulsifs. Alors on a droit à de longs monologues, d'ailleurs totalement gratuit et sans destinataire, ce qui est souvent un aveu d'échec d'écriture, qui philosophe sur l'existence, nous explique qu'on est presque 8 milliards sur Terre, qu'on est des chiffres, que rien ne changera et que, comme le disait Metallica, au fond, rien n'a d'importance. Alors cette lourdeur totale d'écriture, due pourtant à Andrew Kevin Walker, le scénariste de Seven déjà de Fincher, et aussi du rigolo 8 mm de Joel Schumacher, semble être in fine une profession de foi pour l'ensemble du film, qui semble être un P dans le CO2 rejeté par Netflix chaque année en faisant croire qu'ils rendent hommage au cinéma en traitant les réalisateurs comme des enfants gâtés, mais pas forcément comme des cinéastes.
Respire. Du calme.
Vous n'en croirez pas, vous y.
Voilà les conditions.
si tu veux réussir.
C'est doublement dommage pour nous, spectateurs français, car bah, que le film soit bon ou non, bah, on aimerait quand même pouvoir découvrir un Fincher en salle, ce qui était aussi un gros problème hein, pour son bien plus réussi Manque il y a 3 ans, mais aussi parce que bah, le film s'inspire d'une BD française conçue par Mats. Mais face à une œuvre qui se veut être une parabole intelligente et réflexive sur les dérives de nos sociétés modernes ultra connectées, bah, on préférera de très loin la première adaptation hollywoodienne d'une BD de Mats, hein, bah, à savoir le très amusant et pulp Du plomb dans la tête de Walter Hill avec Stallone, hein, sorti il y a pile 10 ans. Et au moins, bah, les 50 millions de dollars de budget se voient à l'écran, pas comme dans les 175 millions de dollars du Fincher, bah, qui s'évertue à effacer toute trace de spectaculaire. Bref, si vous voulez entrer dans la routine d'un tueur à gage, elle aussi découpée par chapitres et basée aussi sur une méticulosité bah, qui peut prendre plusieurs tournures narratives, bah, on vous conseille de vous replonger tout simplement dans la série de jeux Hitman, qui aura au moins le mérite, elle, d'être ludique en plus d'être vraiment distrayante. Et ça, sans prétention sociale.
Alors, merci Guillaume d'avoir fait cette chronique. Alors, moi,
Alors, ça m'en coûte un peu, hein, parce que j'aime beaucoup Fincher d'habitude. Et Manque, son dernier effort pour Netflix, m'avait énormément plu, alors qu'il s'était pris en colibé hein, de mauvaises critiques.
Ouais. Bah, c'était un film très personnel, mais là, j'ai lu l'interview qu'il a faite dans le quotidien Le Monde, où il explique qu'il était impossible pour lui de refaire de Manque, parce que voilà, il ne peut pas faire le coup deux fois à Netflix, celle-là, il ne les aurait pas accepté le projet. Donc il a fait effectivement un projet un peu plus classique.
Ça se sent. Hein.
Mais moi je le trouve par ailleurs très réussi. Enfin, j'ai été complètement pris par ce film où effectivement il y a une espèce de décalage entre ce que nous dit ce tueur à gages qui parle très peu. En fait, il parle très peu aux autres personnages. C'est simplement sa voix intérieure que l'on entend. Et contrairement à plein d'autres films en fait où la voix effectivement on est à l'intérieur d'un personnage comme dans Fight Club ou Gone Girl. Enfin voilà. Enfin on est dans un peu dans la psyché des personnages. Là, on a quelque chose qui s'extériorise par la voix off. C'est assez intéressant, me semble-t-il. Et j'ai noté une phrase de son interview. Il dit, entre ce qu'il rumine intérieurement, donc il part du personnage, et ce qu'il effectue, il y a toujours une petite différence. Et c'est à cet endroit que le film se joue. Voilà. Donc ça, c'est son parti pris à lui, David Fincher. Après, je trouve que Michael Fassbender fait une partition remarquable. Pour moi, il y a 2-3 scènes vraiment que je trouve fort bien maîtrisées, notamment quand il est face à certains confrères qui veulent sa peau. Ce sont deux séquences. Il y en a une qui est ultra violente et puis l'autre qui passe par le langage. Ces séquences, d'ailleurs, étaient peut-être présentes dans la BD, hein, je ne sais pas, hein, parce que c'est une adaptation, effectivement, de la BD. Mais je trouve ça assez remarquable. Voilà. Bon, vous avez plusieurs avis, chers auditeurs, à vous de savoir si vous allez prendre la télécommande pour regarder donc ce The Killer, c'est vrai, un poil trop cher, qui est donc diffusé sur la plateforme Netflix. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de David Fincher, qui, il y a quelques années, hein, sortait des films sur grand écran.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
On rappelle la règle du jeu du blind test. Vous avez 5 extraits de la filmographie donc de David Fincher. Il faut évidemment trouver le titre. Premier extrait.
Il m'arrive parfois de faire mal à de petits animaux, vrai ou faux. Je me sens coupable de me masturber.
C'est pas moi qui écris les questions. Moi, j'analyse les réponses.
De quoi s'agit-il au juste ?
Ça nous donne une idée générale de vos capacités.
Non, je veux dire, tout ça, votre produit, c'est quoi ?
Oh ! C'est un jeu ?
Un jeu ?
Conçu personnellement pour chaque participant. Comme des vacances fantastiques. Sauf que vous n'allez nulle part. C'est le jeu qui vient à vous.
Et quelle sorte de vacances ?
Différentes à chaque fois.
Ouvrez-moi donc l'appétit avec des détails.
Et nous fournissons ce qui vous manque.
Alors, il y avait des indices. Il y avait la voix française d'un acteur, Michael Douglas, et puis la référence au jeu.
Littéralement, c'est The Game.
Oui, un film de 1997, avide de pouvoir, froid, distant et triste. Nicolas von Horton, donc Michael Douglas, va fêter ses 48 ans. Il se voit offrir un cadeau d'anniversaire par son petit frère qui lui explique que dès qu'il appellera la Consumer Recreation Service, le jeu viendra à lui. 1,2 million d'entrées en France pour ce film.
Film qui fait toujours pas l'unanimité aujourd'hui, hein, d'ailleurs, dans la filmographie de Fincher. Il y a vraiment les partisans et il y a les contres.
Ouais, mais c'est comme Fight Club, comme peut-être tous les films de Fincher, sait-on jamais. Deuxième extrait de ce blind test.
Maître Fraude a eu l'amabilité de me laisser consulter votre rapport. C'est l'enquêtrice. Il s'agit bien de son nom. Vous voyez, je ne trouve pas la moindre information sur elle et je suis plutôt doué pour ça.
Est-ce que c'est vraiment important de connaître son nom?
C'est important si je veux lui parler.
C'est contre notre politique.
Vous êtes sûr?
Comme avec vos sources, vous devez comprendre.
Ok. Tenez, moi je vous donne un nom. Ma sœur, c'est aussi mon avocat. Elle prendra contact avec vous. Il y a des choses là-dedans qui ne peuvent venir que d'un endroit précis.
Vous ne trouvez aucune info sur elle nulle part parce que ces infos ont été mises sous scellé. C'est une pupille de la nation.
Je ne vois pas où est le problème.
Elle a eu une vie compliquée. Est-ce qu'on peut essayer de ne pas la lui compliquer davantage?
Alors, ça n'a pas été trouvé ici en studio. Peut-être que vous, vous avez trouvé, chers auditeurs. Alors, l'indice, c'est que c'est un film qui se passe dans le froid. Et c'est une enquête un peu compliquée.
C'est Millennium ?
Oui, voilà.
Ah ben c'est le seul que je n'ai pas vu.
Ah ben voilà.
Parce que j'étais pas très intéressé, tout simplement parce que Fincher a un univers tellement à lui original que j'étais pas très intéressé à l'idée de le voir faire en remake d'un film en plus aussi récent.
C'est vrai que c'était assez étrange. Donc Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est sorti en 2011 avec Daniel Craig et Rooney Mara. Remake donc de Millennium, film suédo-danois de 2009 et tiré du roman éponyme de Stieg Larsson. Et on...
qui avait été un phénomène énorme à l'époque.
Oui, oui, un gros phénomène mondial. Mikael Blomkvist, journaliste au mensuel suédois Millennium, enquête à la demande de l'ancien industriel Henrik Wenger sur la disparition de sa nièce. Il se fait aider par Lisbeth, une jeune hackeuse prodige et marginale. Il découvre des ramifications tentaculaires et inattendues. 1 million d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de David Fincher.
Monsieur Dunn.
Monsieur Collins. Et je vous connais. C'est vous que j'ai vu avec les bénévoles.
Par solidarité.
J'espère que vous ne m'en voulez pas de passer. J'ai eu votre adresse sur cette lettre que vous avez envoyée à ma femme.
Amy et moi croyons encore à l'art épistolaire.
Ça m'a toujours étonné que vous gardiez contact. Après ce qui est arrivé. Vous êtes restés ensemble 2 ans au lycée, c'est ça?
C'était la première relation sérieuse de ma vie.
Pourquoi avez-vous rompu?
Quelle drôle de question.
Vous lui manquiez de respect? Vous étiez infidèle?
Là, vous devenez grossier.
Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Elle a fini par rompre. Vous êtes complètement parti en vrille. Vous la harceliez, vous la menaciez. Et quand vous avez fait une tentative de suicide dans son lit, vous avez été interné.
Votre femme disparaît et vous venez jusqu'ici pour me servir votre couplet?
J'aimerais beaucoup entendre votre version de l'histoire.
Alors là, c'était compliqué en studio, mais dès que tu as entendu une femme disparaît, ça y est, votre femme disparaît.
C'est pas le Hitchcock, une femme disparaît, mais c'est Gone Girl.
Film de 2014 avec Ben Affleck, dont on entendait la voix française, et Rosamund Pike qui disparaît. Adapté du roman Les Apparences de Gillian Flynn, on suit le destin de Nick Dune qui signale la disparition de sa femme et qui passe de mari malheureux à coupable idéal. Le film s'apparente à une dénonciation de l'hypocrisie d'une société américaine vénérant les apparences avec deux plans magistraux de l'actrice Rosamund Pike qui resteront à jamais gravés dans mon esprit.
Justement, j'ai envie de dire qu'on parle beaucoup de la technique chez Fincher. On oublie parfois que c'est aussi un excellent directeur d'acteur. Et je pense que Ben Affleck n'a jamais aussi bien joué que dans ce film, parce qu'il a un rôle en plus très dur. Il doit jouer le mari assez idiot, et Fincher a su utiliser son physique un peu de quarterback cinquantenaire, un peu débonnaire et un peu bébête, pour justement faire ressortir un personnage qui est complètement perdu et brisé. C'est assez brillant.
Ouais, effectivement. 1,9 million d'entrées en France pour ce film Gone Girl.
Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de forcer la porte?
L'acier. Très épais. Extrêmement épais. Avec batterie de secours. Même en cas de coupure de courant, elle est opérationnelle.
Oh, impressionnant. C'est bien Sidney n'a pas mégoté, on dirait.
Ouvrez, s'il vous plaît.
Mais avec des enfants comme les siens, c'est normal de vouloir une cachette.
Veuillez ouvrir tout de suite.
C'est une remarque tout à fait déplacée.
Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Ma chambre. C'est définitif, ma chambre.
C'est vraiment très dangereux.
Cette porte est une menace.
Pas du tout. Détecteur de mouvement comme dans un ascenseur. Il empêche la fermeture si on se trouve dans le passage. Il y en a un autre au niveau des chevilles. Sécurité maximum.
Trouvé.
C'est Panic Room ?
Oui, film de 2002 avec Jodie Foster et Kristen Stewart. suite. Une mère et sa fille se planquent tandis qu'elles sont victimes d'un cambriolage. 1,3 million d'entrées en France pour ce film.
On parlait d'Hitchcock d'ailleurs dans le précédent. Je parlais d'une femme disparue pour Gone Girl. Là, c'est littéralement l'hommage de Fincher à Hitchcock. Le générique de début, c'est exactement le même que dans ces génériques qu'il faisait dans les années 50.
Eh bien, merci pour ces précisions. Dernier extrait du blind test.
Je te dirai un secret si tu m'en dis un.
D'accord.
J'ai vu ma maman embrasser un autre monsieur. Elle est devenue toute rouge. À ton tour.
Je suis pas aussi vieux que j'en ai l'air.
J'en étais sûre. T'es pas comme les autres gens vieux. Comme ma grand-mère.
Je suis pas vieux.
T'es malade?
Ben, j'ai entendu maman et Tizi qui parlaient tout bas et disaient que j'allais bientôt mourir, mais peut-être que non.
Bon, je crois qu'il y avait beaucoup d'indices, c'était facile.
C'est l'étrange histoire de Benjamin Button.
Oui, film de 2008 avec Brad Pitt, dont on entend une des voix françaises. Et puis Kate Blanchett, un homme incarné donc par Brad Pitt, naît vieux et rajeuni au fil des années. Et dans le même temps, Daisy, Kate Blanchett, vit une histoire d'amour avec lui tout au long de sa vie. Le film avait été retenu par Steven Spielberg en 91 avec Tom Cruise, qui devait bien interpréter le rôle de Brad Pitt, mais... Le réalisateur a quitté le projet pour réaliser Jurassic Park et la liste de Schindler. 2,5 millions d'entrées en France pour ce film qui a remporté aussi 3 Oscars. L'étrange histoire de Benjamin Button. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de David Fincher, car nous parlions de The Killer. À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des images d'archives secrètes. C'est Little Girl Blue avec Marion Cotillard.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
C'était les années 50. On se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque.
À la mort de sa mère, Carole H.H., Mona H.H. découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements qui pour autant ne lui révèlent pas vraiment qui était sa mère. Cette photographe et écrivaine dont la mère a côtoyé Jean Genet, Marguerite Duras, qui s'est prostituée, a vécu à New York et à Saint-Germain-des-Prés, puis a fini par se pendre dans sa bibliothèque. La jeune cinéaste décide alors de demander à la comédienne Marion Cotillard de redonner vie à sa mère en l'incarnant pour peut-être, enfin, réussir à la comprendre.
Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier.
Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. Ne t'entends pas exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêter sur votre mère?
Mona H.H. nous livre un film on ne peut plus personnel après Le Hérisson, sorti en 2009, qui offrait son premier rôle dramatique à Josiane Balasco, et Les Gazelles, comédie générationnelle qui révélait Camille Chamou et brossait un portrait enjoué de la féminité contemporaine. Little Girl Blue est un film hybride entre documentaire et fiction, très déstabilisant par son côté méta, impressionnant pour ce qu'il montre de la performance de Marion Cotillard, qui non seulement fait du playback à la perfection, puisqu'elle parle sur des interviews préexistantes de Carole H.H., mais se transforme peu à peu en Carole, rappelant sa performance dans La Môme de Olivier Dahan, sans avoir besoin d'artifice ou si peu, si ce n'est des lentilles marron et une perruque. Elle se métamorphose complètement devant nos yeux en une autre. La scénographie nous rappelle Dogville et son épure théâtrale. L'histoire de cette femme, fascinante et repoussante un peu par certains endroits, nous raconte aussi le poids de la descendance, nous raconte une lignée de femmes qui ont subi des agressions, qui ont subi le silence, les tabous, les non-dits.
Lucie a quand même un personnage incroyable, hein, ma mère.
Le tournage, qui fut chronologique, a permis à Marion Cotillard, d'ailleurs la seule actrice du film, face à Mona H.H., qui s'incarne elle-même et semble ressentir puisqu'elle ne joue, de se transformer en expérience de cinéma quasi expérimentale. Il y a d'ailleurs beaucoup d'images d'archives, de fusions volontaires entre le vrai, le faux, le présent, le passé. Et on sent également, peut-être un peu trop parfois, à quel point ce film est aussi un processus thérapeutique. Little Girl Blue est un film troublant qui ne ressemble à aucun autre et qui surtout rappelle à nouveau quelle immense actrice Marion Cotillard est au sein du cinéma français.
Alors,
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, nous parlerons du temps d'aimer avec une interview de la réalisatrice et puis aussi de Perfect Days et probablement aussi de Mars Express. À la semaine prochaine.